Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Metzia, 68 Dav Sameh Het. Bonne écoute et bon limoud.
La Torah dit nous kaparikla be'arba azuzé. Il peut racheter ce champ pour la somme de 4 zouz, donc un sel par an. Nous voyons donc qu'il existe une vente d'une grande quantité de fruits pour une petite somme d'argent. Hachanami, ici aussi concernant l'hypothèque, l'oshana, il n'y aura pas de différence. Nous pourrons dire aussi que cette somme minime qui est déduite chaque année de la dette peut être considérée comme la contre-valeur des fruits consommés par le créancier, qui est justifiée, comme nous l'avons expliqué, par le fait que le créancier accepte le risque que ce champ ne produise rien. Et c'est pour cela donc qu'il sera permis au créancier de consommer les fruits de ce champ, même s'il déduit une petite somme de la dette chaque année. Voir le rachash Uman de Asar, et celui qui interdit de consommer les fruits du champ hypothéqué en déduisant une petite somme chaque année, Amalakha te dirait Sade Achuza Hegdeshi. Le cas du champ du patrimoine qui a été sanctifié appartient au Hegdesh. Il n'y a donc pas eu de prêt. Berachamana Ukme Apidion. Et c'est pour cela que la Torah a fixé un montant arbitraire pour le rachat de ce champ. Hacham est dans le cas de l'hypothèque Halbaï. Il s'agit d'un prêt. Umirze Keribit. Et le fait de déduire uniquement une petite somme pour la consommation des fruits ressemble trop à un intérêt, et c'est pour cela que les Chachamim l'ont interdit. Nous avons fini ici le shiur de Baba Metzia Daf Samech Zayin. Nous commençons le shiur de Baba Metzia Daf Samech Het à la quatrième ligne du haut de la page. La Gemara continue à enseigner des lois juridiques concernant l'hypothèque. Amar Avashi, Amrouli Sabé de Matamarsia, les sages de la ville de Matamarsia m'ont dit Stam Mashkanta Shata. Même là où l'usage est que le champ hypothéqué ne peut être retiré à tout moment du créancier si le débiteur rembourse la dette, en général, l'hypothèque est donnée pour un minimum d'un an. Les Maïn Afkamina, que sort-il de là? L'agma répond, « De Iachilla Shata, si le créancier a consommé les fruits du champ hypothéqué pendant un an, en d'autres termes, s'il l'a possédé pendant un an, Matsi Messa les clés, le débiteur a le pouvoir de lui retirer ce champ en remboursant sa dette. Veilo. Mais s'il ne l'a pas possédé pendant un an, l'homme a tiré sa clé, le débiteur ne peut pas retirer le champ hypothéqué en lui remboursant la dette. Autrement dit, même là où le débiteur peut rembourser sa dette à tout moment, il doit laisser ce champ hypothéqué entre les mains du créancier pour un minimum d'un an. Ve'amar Ravashi, Amrouli, Sabé de Matamarsia, les sages de la ville de Matamarsia m'ont dit, Maï Mashkanta, que veut dire ce terme de Mashkanta? Ils répondent, Deshchunagabe, que ce terrain hypothéqué réside auprès du créancier. En d'autres termes, qu'il en est partiellement propriétaire. Les Maïn Afkamina, que ressort-il de là? Ils répondent, l'Edina de Bar Matzra, c'est concernant la loi des terrains juxtaposés. En effet, lorsqu'une personne a l'intention de vendre un terrain, il y a l'obligation d'essayer de le vendre en premier à ses voisins. S'il ne l'a pas fait, les voisins peuvent même réclamer auprès de l'acheteur et exiger que ce terrain leur soit vendu. Ils le rachèteront donc de l'acheteur. Cependant, dans le cas où ce terrain est hypothéqué, le créancier est considéré comme étant le voisin le plus proche et c'est à lui que revient en premier le droit d'acheter ce terrain. Amar Rava, let hilcheta, la halakha n'est pas l'on ketarche papunaye, ni comme les ventes à crédit faites par Rav Papa, velo keshtare mechuznaye, et ni comme les reconnaissances de dette faites à Machuza, velo kechakire narchaye, et ni comme les locations de terrain faites dans la ville de Narash. Alors l'agma précise, Ketarche Papunae, quand nous disons que la halakha n'est pas comme la vente à crédit de Papunae, il est donc interdit d'agir ainsi. Ketarche de Rav Papa, il s'agit de la vente à crédit faite par Rav Papa. En effet, comme nous l'avons vu plus haut d'Af Samekhe Amoud Aleph, Rav Papa avait l'habitude de vendre de la bière à crédit au moment de sa production quand elle était pas chère, et il accordait un crédit aux commerçants jusqu'au printemps lorsque la bière était devenue chère. Cependant, il exigeait que cette bière lui soit payée à son prix fort, donc au moment du paiement. Il le faisait, comme l'Agmara l'a expliqué, c'est parce qu'il disait qu'il n'avait pas besoin d'argent, il était donc prêt à garder cette bière jusqu'au printemps pour la vendre à son prix fort. Donc la raison pour laquelle il a exigé que cette bière lui soit payée au prix fort au printemps, lorsque son prix aurait augmenté, ce n'est pas en raison du délai accordé aux commerçants, mais plutôt pour ne pas perdre dans l'affaire, étant donné que sa bière ne s'abîmerait pas de toute façon, il aurait pu donc la garder jusqu'au printemps. Cependant, là, l'halakha n'est pas comme lui, donc il est interdit d'agir ainsi, parce que du côté des commerçants, il est évident qu'ils étaient prêts a payé cette bière plus tard à son prix fort, c'est parce qu'il ne possédait pas d'argent maintenant pour en acheter à son prix bas. Donc, de leur côté, nous considérons cela comme un intérêt en échange du délai accordé par le vendeur. Alors, la Gemara précise, Shtare Mechuznae, les reconnaissances de dette faites à Mechuza sont aussi interdites. Il s'agit des riches de la ville de Mechuza qui investissaient de l'argent en achetant de la marchandise, puis les redonnaient à des commerçants pour les revendre, pour partager ensuite avec eux les bénéfices, selon les modalités que nous verrons dans la Mishnah plus loin. Cependant, le problème était des Akfélé, les Ravra à Karna, c'est qu'ils évaluaient leur part des bénéfices pour l'ajouter sur le capital. Les Katvélé, Beshtara, ils écrivaient le total dans la reconnaissance de dette. Ils écrivaient donc que un tel le commerçant me doit tant et tant, qui était la somme du capital plus leur part du bénéfice. Alors le problème est, Miemar d'Averavra, qui me dit qu'il y aura des bénéfices. Finalement donc, en écrivant la reconnaissance de dette de cette manière, le commerçant s'engage à payer des intérêts, ce qui est interdit minatora. Amarle, Mar bar Amemar le Ravashi. Mar le fils d'Amemar a dit à Ravashi, Abba Avidachi, mon père agit de cette manière, donc il ajoute sa part des bénéfices prévus au capital et inscrit le tout dans la reconnaissance de dette. Vechia tous les kamé, et lorsque les commerçants se présentent devant lui pour lui dire qu'il n'y a pas eu de bénéfice, Meheman Lehu, il leur fait confiance. Donc, finalement, même si sa part du bénéfice était inscrite dans la reconnaissance de dette, mais il faisait quand même attention de ne pas obliger le commerçant à payer s'il prétendait qu'il n'y a pas eu de bénéfice. À Marlé, Rabashu lui a répondu, Tinar Echadi Teledide. S'il agit de cette manière, c'est bien s'il est encore vivant. Ishachiv Venafal Shtara Kameyatme. Mais s'il vient à mourir et cette reconnaissance de dette arrive entre les mains des orphelins, qu'est-ce qui se passera? Puisque finalement les orphelins ne savent rien de tout cet accord et ils risquent donc d'obliger le commerçant à payer la totalité de la somme inscrite dans cette reconnaissance de dette. Finalement donc, en écrivant la reconnaissance de dette de cette manière, il y a le risque que le commerçant soit obligé de payer la totalité de la somme, ce qui sera considéré comme un intérêt. Et c'est pour cela donc, en toutes circonstances, il est interdit d'ajouter la part du bénéfice au capital pour inscrire la totalité de la somme dans la reconnaissance de dette. Havé, ces paroles de Ravashi ont agi comme le pasouk dans quoi l'étude le dit, Kishgaga Shiotsa Milifne Ashalit, comme une erreur qui sort de la part du dirigeant. En d'autres termes, puisque Ravashi s'est exprimé en disant « Et si Amemar vient à mourir, qu'est-ce qui se passera ?» Ces paroles ont agi comme une malédiction par erreur. « Venach napshe de Amemar » et « Amemar est décédé ». La Gemara précise encore « Hakire narshae » les locations de terrain faites dans la ville de Narash sont interdites. Il s'agit de créanciers de la ville de Narash, des Katve Achi, qui écrivaient ainsi dans un document « Mishkenle Plania Ara le Plania » Un tel a hypothéqué son terrain à un tel, Vehadar Hakramine, puis le débiteur l'a loué du créancier. C'est-à-dire, le créancier ne sachant pas travailler la terre, il a loué son terrain au débiteur en échange d'une quantité de fruits fixe, pour laquelle donc le débiteur était engagé, et même si ce terrain ne produisait rien, il était obligé quand même de le payer au créancier. En fait, l'idée était que puisque le créancier avait le droit de consommer les fruits de ce champ, par exemple, en déduisant une somme fixe chaque année, il avait le droit après de louer ce terrain à quelqu'un d'autre en échange d'une quantité fixe de fruits. Il ne voyait pas le mal donc de le relouer au propriétaire. Cependant, le problème est « Emat kan'a de'akni'eni ale » Quand est-ce que le créancier a acquis ce terrain pour pouvoir à nouveau le revendre ou le relouer au propriétaire? Finalement donc, cela revient à être un intérêt que le débiteur s'est engagé à payer aux créanciers, ce qui est interdit minatora. Alors, la Gemara continue vers Haïdna et aujourd'hui des Kakatve Achi, où ils écrivent ainsi dans leur document, Kanina Mine, le créancier dit donc, j'ai acquis ce terrain en tant qu'hypothèque du débiteur, Veshaïna Kamaïdne, et celui-ci est resté entre mes mains plusieurs années, Veadar Chagra, et puis à nouveau, le propriétaire, donc le débiteur, l'a loué. Donc, puisque nous voyons que le créancier a acquis ce terrain, alors que Deshelotinol Delet Bifne Lavim, pour ne pas que la porte se ferme devant ceux qui cherchent à emprunter de l'argent, Shapir Dami, c'est bien, c'est-à-dire les Chachamim l'ont permis. La Gemara conclut là-dessus, Velav Miltai, et ce n'est pas vrai, c'est-à-dire même dans le cas où le créancier a acquis ce terrain, et il est resté entre ses mains plusieurs années, il n'aura pas le droit de le louer au débiteur. Puisque même lorsqu'il déduit une somme fixe chaque année, Mais dans ce cas, il n'a pas pris le risque que ce champ ne produise rien, puisque le débiteur s'est engagé à lui fournir chaque année une quantité fixe de fruits en tant que location de ce terrain. Il s'agit donc d'un intérêt véritable qui est interdit même minatora. Nouvelle Mishnah. Maintenant, nous allons parler des investissements. À l'époque, les riches investissaient de l'argent en achetant de la marchandise en gros pour la donner ensuite à un détaillant qui la revendait en détail. Ils partageaient ensuite les bénéfices ou les pertes. Alors, le problème qui se pose est le suivant. Puisqu'ils partagent équitablement les pertes et les bénéfices, nous pouvons donc considérer que la moitié de la marchandise appartient totalement à l'investisseur et tout bénéfice ou perte se rapportant à cette partie de la marchandise revient au propriétaire, donc à l'investisseur. L'autre moitié peut être considérée comme un prêt, puisque finalement le détaillant s'engage à payer la contre-valeur de cette marchandise en toutes circonstances. Et c'est pour cela donc que les pertes et les bénéfices reviennent de droit à ce détaillant. Si c'est ainsi, il se trouve donc que le détaillant travaille gratuitement pour le compte de l'investisseur, donc du propriétaire, en échange du prêt qu'il lui a accordé, en lui donnant la moitié de la marchandise à crédit, ce qui est donc considéré comme un intérêt. C'est pour cela que la Mishnah enseigne « En moshivin chen vani le machatzit sachar » Il est interdit d'installer un épicier en lui donnant de la marchandise à revendre pour recevoir la moitié des bénéfices. Et aussi « Veloiten maot likar ba'en perot le machatzit sachar » Il est aussi interdit de donner de l'argent à un détaillant pour qu'il achète des fruits et qu'il les revende pour recevoir la moitié des bénéfices. « Ela imken noten los charo kepoel » À moins que l'investisseur, donc le propriétaire, accorde au détaillant, en plus de sa part dans les bénéfices, un salaire comme un ouvrier, pour payer le fait qu'il a travaillé pour lui. En moshivin tarnegolin lemerza. Il est interdit aussi de conclure un accord entre le propriétaire de poule et le propriétaire d'œuf, qui était aussi fait de la même manière. C'est-à-dire le propriétaire de la poule recevait des œufs pour les faire couver par sa poule, pour ensuite partager les bénéfices ou les pertes avec le propriétaire des œufs. Et cela, toujours pour la même raison, puisque le propriétaire de la poule doit rembourser la valeur des œufs en toutes circonstances, même s'il ne donne pas de poussin. Cette moitié, donc, est considérée comme un prêt de la part de l'investisseur, le propriétaire des œufs, en échange duquel le propriétaire de la poule travaille pour lui gratuitement, ce qui est considéré comme un intérêt. De en shamin agalim usyachim lemerza, il est interdit d'évaluer des veaux et des poulains pour les donner par la suite à un éleveur pour partager les bénéfices et les pertes. Et cela, toujours pour la même raison, que la moitié de ces veaux et de ces poulains sont considérés comme un prêt chez l'éleveur, puisqu'il doit rembourser leur valeur en toutes circonstances. Et en échange de ce prêt, il élève les veaux et les poulains appartenant au propriétaire, ce qui est considéré comme un intérêt. Et là, imken noten los har amalo umezono, à moins que le propriétaire donne au propriétaire de la poule ou à l'éleveur des veaux et des poulains, le salaire de son travail pour l'élevage et les frais de la nourriture de ces animaux, donc de la part appartenant au propriétaire. Aval mekablin agalim usyachim lemerza, mais un éleveur aura le droit d'accepter des veaux et des poulains pour les élever et de partager ensuite les bénéfices, parce qu'ils n'ont pas été évalués au départ. Ainsi donc, l'éleveur n'a pas accepté d'être responsable en cas de perte. Il n'y a donc pas de prêt, il n'y a donc pas lieu d'interdire quoi que ce soit à cause d'un intérêt, d'autant plus que la moitié des bénéfices est amplement suffisant pour le rémunérer. Et l'éleveur s'engage à élever ses veaux et ses poulains jusqu'à ce qu'ils atteignent le tiers de leur croissance, et ce n'est qu'à ce moment-là que les bénéfices seront partagés. Et s'il s'agit d'un âne, l'éleveur s'engage à l'élever jusqu'à ce qu'il soit possible de lui faire porter des fardeaux. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les bénéfices seront partagés. Parce qu'à l'époque, l'usage était d'élever des veaux et des poulains jusqu'à ce qu'ils atteignent le tiers de leur croissance, et l'âne jusqu'à ce qu'il soit possible de le charger. Alors nous avons vu dans la Mishnah qu'il est interdit de donner de la marchandise à vendre à un détaillant pour partager ensuite les bénéfices ou les pertes, à moins de lui donner un salaire comme un ouvrier. Alors la Gemara dit là-dessus, Tana, il est enseigné dans une braïta, Kepoel Batel. Le propriétaire devra lui accorder un salaire comme un ouvrier qui ne fait rien. Apparemment, cela voudrait dire qu'on évalue combien une personne qui a un travail serait prête à diminuer de son salaire pour ne rien faire. Alors la question se pose, Mike Poel Batel, comment peut-on évaluer le salaire de ce détaillant comme un ouvrier qui ne fait rien, puisque finalement, il doit quand même travailler en portant la marchandise, en la pesant, et pour la donner aux acheteurs, et en recevant l'argent en échange. Et pour cela, donc aussi, il devrait mériter un salaire. Nous tournons la page à Daf Samechet Amoud Bet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Samechet Amoud Bet. La Gemara répond, Amar Abaye, que poel batel shelotah melacha de batel mina. On évaluera le salaire de ce détaillant comme un ouvrier qui arrête un travail dur qu'il faisait auparavant et qui avait un salaire en conséquence. Et on évaluera donc combien sera-t-il prêt à diminuer de son salaire pour avoir un travail plus facile. Son salaire sera donc plus élevé que le salaire d'une personne qui ne faisait rien avant et qui devient maintenant détaillant. Et c'est donc cela que la Braïta vient nous ajouter, qu'il faudra tenir compte aussi du travail que ce détaillant avait auparavant. Utsricha et la Mishnah avaient besoin de nous citer deux cas, celui du détaillant qui reçoit la marchandise à vendre et celui qui reçoit l'argent pour acheter la marchandise à vendre, pour nous enseigner que le propriétaire doit payer le salaire du détaillant en tenant compte de son travail antérieur. Parce que si la Mishnah avait uniquement enseigné le premier cas du détaillant qui recevait la marchandise à vendre, on aurait dit Chenvani ou de Sagelek et Poel Batel. On aurait dit que ce n'est que dans le cas du détaillant qui reçoit la marchandise à vendre que le propriétaire peut se suffire de lui donner un salaire en tenant compte de son travail antérieur et en diminuant ce qu'en général une personne aurait été prête à diminuer pour avoir un travail plus facile. Mishum de l'onafish tirche, parce que finalement, en vendant la marchandise dans le magasin, il ne fournit pas beaucoup d'efforts. Nous pouvons donc estimer, comme l'explique le Pnei Yoshua, que la majorité des gens seront prêts à diminuer de leur salaire pour avoir un tel travail plus facile. Aval maot lekar ba'en perot, mais dans le cas de celui qui reçoit de l'argent pour acheter des fruits, donc de la marchandise, pour la revendre ensuite, de l'affiche tirche, où il doit fournir beaucoup d'efforts, et mal osagele ke poel batel, on aurait pu croire que le propriétaire ne peut pas se suffire de lui payer un salaire en tenant compte de son travail antérieur et en diminuant ce qu'une personne aurait été prête à diminuer pour avoir un travail plus facile. Parce que nous pourrions dire que puisque de toute façon cette personne doit fournir un effort, beaucoup de gens ne seraient pas prêts à diminuer de leur salaire pour changer de travail. Puisque si de toute façon il faut fournir un effort, autant fournir un peu plus d'efforts et de gagner plus d'argent. Donc on aurait pu croire que dans ce cas, le propriétaire doit lui payer le plein salaire de son travail antérieur. Et si la Mishnah avait uniquement enseigné le cas de celui qui reçoit de l'argent pour acheter des fruits, donc de la marchandise pour la revendre ensuite, et dans ce cas donc la Mishnah aurait dit que le propriétaire doit lui accorder un salaire en tenant compte de son travail antérieur et en diminuant ce qu'une personne aurait été prête à diminuer pour avoir un travail plus facile. Hava mina, j'aurais cru, hatam hu debaik epoel batel, ce n'est que dans le cas du détaillant qui reçoit de l'argent pour acheter de la marchandise, que le propriétaire doit lui accorder un salaire en tenant compte de son travail antérieur, comme nous l'avons expliqué, Mishum de la fiche tirche, parce qu'il doit fournir beaucoup d'efforts pour à la fois acheter la marchandise et la revendre. Aval Chenvani, mais dans un cas d'un détaillant qui reçoit la marchandise à revendre, de l'on affiche tirche, où il ne doit pas fournir beaucoup d'efforts, et Masagileh Bemashe ou Bealma, on aurait pu croire que le propriétaire pourra se suffire de donner n'importe quoi comme salaire à ce détaillant. Et donc, même si le propriétaire a simplement trempé de la nourriture dans de la saumure avec ce détaillant, en d'autres termes, il a partagé avec lui un repas, ou bien s'il a mangé avec lui une seule date, donc aussi, il a partagé avec lui un peu de nourriture, on aurait dit que c'est cela son salaire, il n'a pas besoin d'ajouter encore plus. C'est pour cela que la Mishnah a besoin de nous enseigner que même dans le cas du détaillant qui reçoit de la marchandise à revendre, le propriétaire devra lui accorder un salaire décent, donc en tenant compte de son travail antérieur, comme nous l'avons expliqué. Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta, kama uscharo, combien doit être le salaire de cette personne qui s'occupe de l'investissement d'un propriétaire, ben merubé ou ben muat, que ce soit beaucoup ou que ce soit peu. C'est-à-dire, au départ, lorsqu'il fixe les conditions de cet investissement, le propriétaire doit fixer un salaire pour la personne qui s'en occupe. Et si ce dernier est d'accord, même un tout petit salaire sera suffisant pour qu'il lui soit permis de s'occuper de l'investissement du propriétaire sans qu'il n'y ait de problème d'intérêt, parce qu'une personne peut travailler à n'importe quel prix. Mais si ce salaire n'a pas été fixé au départ, comme l'explique le Pnei Yehoshua, le propriétaire devra par la suite accorder un salaire décent, donc en tenant compte du travail antérieur. D'après Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, « Afilu lo tava limo el abetzir » Même si le propriétaire a simplement trempé de la nourriture dans de la saumure avec la personne qui s'occupe de l'investissement, velo achalimo el agogel atachat, bien s'il l'a mangé simplement avec lui une seule date, en d'autres termes, il lui a simplement accordé un peu de nourriture, zeus haro, cela est suffisant pour être considéré son salaire, il n'a pas besoin d'en donner plus. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, noten los haro mushlam, il devra lui donner en toutes circonstances un salaire décent, donc en tenant compte du travail antérieur, comme nous l'avons expliqué précédemment dans la Mishnah et dans la Gemara. Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta, « En shamin lo et haizim velo et harechelim » Il est interdit d'évaluer des chèvres et des brebis pour les donner en élevage, « velo kol davar sheno oseh veochel » et ni tout autre animal qui ne produit pas suffisamment pour couvrir les frais de nourriture, les mertsa, pour partager ensuite les bénéfices ou les pertes. Et cela parce que, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, l'éleveur élève gratuitement la part du propriétaire en échange du prêt qu'il a reçu, parce que la moitié de cet investissement est considérée comme un prêt, puisqu'il s'est engagé à rembourser la moitié de cet investissement en toutes circonstances, même en cas de perte. Et cela est interdit, bien entendu, uniquement dans le cas où le propriétaire n'accorde pas de salaire à l'éleveur. Cependant, nous le préciserons, comme nous l'entendons dans la Braïta, si l'éleveur reçoit en élevage des animaux qui peuvent produire un salaire qui sera suffisant pour couvrir les frais de nourriture et autres, comme une vache qui peut être attelée à la charrue et l'âne qui peut porter des fardeaux, le propriétaire n'aura pas besoin d'ajouter de salaire supplémentaire, parce que le travail fourni par ces animaux est amplement suffisant pour rémunérer et dédommager l'éleveur. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer, Shamin et Taizim Mipne Shecholvot, il est permis d'évaluer des chèvres pour les donner en élevage et de partager par la suite les bénéfices ou les pertes, parce qu'elles produisent du lait. Vetarechelim, il est permis aussi d'évaluer des brebis pour les donner en élevage et de partager ensuite les bénéfices ou les pertes. Mipne Shegozozot, parce qu'elles produisent de la laine qui peut être tondue. Veshotfot ou Mortot, et en plus, l'éleveur récupère la laine arrachée par les cours d'eau lorsque les brebis les traversent, et aussi il récupère la laine arrachée par les ronces. Tout cela est donc suffisant pour rémunérer l'éleveur et le propriétaire n'a pas besoin d'ajouter de salaire supplémentaire. Veta Tarnegolet, et il est permis aussi d'évaluer une poule pour la donner à un éleveur pour partager ensuite les bénéfices et les pertes, même sans ajouter de salaire supplémentaire, Mipne Shehi Osav Ochelet, parce qu'elle produit suffisamment pour pouvoir couvrir ses frais de nourriture. Parce qu'en effet, elle pond des œufs qui seront vendus par l'éleveur. En fait, cette partie de la Mishnah, comme explique le Chassid David, va selon l'opinion de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Nous expliquerons pourquoi. Nous sommes Baba Metzia, Daf Samechet Amud Bet, à la 22e ligne du haut de la page. Nous avons vu jusqu'à présent le principe de l'investissement. C'est quand une personne donne de la marchandise à un détaillant pour la revendre et de partager ensuite les bénéfices, ou lorsqu'il donne des animaux à un éleveur pour partager les bénéfices. Alors nous avons vu que lorsque la valeur du capital est inscrite dans le contrat, cela implique que la personne qui s'occupe de l'investissement est responsable vis-à-vis de la moitié du capital. Autrement dit, si cet investissement subit des pertes, la personne qui s'en occupe en supportera la moitié. Par conséquent, nous considérons la moitié de ce capital comme étant un prêt chez cette personne. Il lui sera donc interdit de travailler pour la part de l'investisseur sans recevoir de salaire. Parce que s'il travaille gratuitement pour le compte de l'investisseur, nous considérons qu'il le fait en échange du prêt qu'il a reçu. Ce sera donc considéré comme un intérêt. Nous avons vu dans une braïta trois avis concernant la nature de ce salaire. L'opinion de Rabbi Meir est que s'il fixe au départ ce salaire, celui-ci peut être même minime. L'opinion de Rabbi Yehuda est qu'il n'est même pas besoin de fixer de salaire, mais même si l'investisseur a partagé un peu de nourriture avec la personne qui s'en occupe, cela est suffisant pour être considéré comme un salaire. Le troisième avis, c'est celui de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est aussi celui de notre Mishnah, qui dit que l'investisseur devra payer le plein salaire de la personne qui s'occupe de l'investissement. Et non seulement cela, mais si cette personne qui s'occupe de l'investissement avait un autre travail qu'il a arrêté pour s'occuper de cet investissement, il faudra aussi en tenir compte. Il faudra donc évaluer combien une personne aurait été prête à diminuer de son salaire pour travailler moins dur. Son salaire donc sera plus grand que celui qui ne travaille pas auparavant et qui maintenant accepte de s'occuper d'un investissement. Nous avons vu une autre braïta où il y a une discussion entre le premier auteur de celle-ci qui dit qu'il est interdit de donner des chèvres ou des brebis à élever pour partager ensuite les bénéfices lorsque la valeur du capital est évaluée et par conséquent cet éleveur est responsable vis-à-vis de la moitié du capital. Par contre, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda le permettait parce qu'il dit que les chèvres produisent du lait et les brebis produisent de la laine et en plus il ajoute qu'il sera permis de donner une poule à élever parce qu'elle produit des œufs, ce qui est donc considéré comme un salaire suffisant pour rémunérer l'éleveur. Alors la Gemara demande, Vetanakama, et selon le premier auteur de la Braïta, Giza Vechalav, est-ce que la laine produite par les brebis et le lait produit par les chèvres, l'osafek, le scharamalo ou mezono, ne sont pas suffisants pour le salaire du travail de l'éleveur et pour couvrir les frais de nourriture? Donc pourquoi, selon le premier auteur de la Braïta, cet accord est interdit? Alors la Gemara répond, Begiza Vechalav, si le propriétaire avait accordé à l'éleveur la laine et le lait, Kulal mal pligé, il n'y aurait pas de discussion entre le premier auteur de la Braïta et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Qui pligé? Dans quel cas ils discutent? C'est dans le cas où il a été convenu que la laine et le lait feraient partie des bénéfices qui seraient partagés. Cependant, le propriétaire a accordé à l'éleveur, Benicio B, la permission de récupérer le petit lait, Vetotare, et la permission de récupérer la laine arrachée par les ronces et par les cours d'eau que les brebis traversent. Alors Tanakama, Savarla, Rabbi Shimon ben Yochai, le premier auteur de la Braïta pense comme l'opinion de Rabbi Shimon ben Yochai, d'Amar qui dit, Noten lo sharo mushlam, que le propriétaire a l'obligation d'accorder le plein salaire à l'éleveur ou à celui qui s'occupe de l'investissement pour permettre cet accord. Par conséquent, dans le cas où le propriétaire n'accorde à l'éleveur que le droit de récupérer le petit lait et la laine arrachée, ce ne sera pas considéré comme un salaire suffisant pour permettre cet accord. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Savarla, qui avoue, alors que Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda, pense comme son père, donc comme Rabbi Yehuda, que nous avons vu dans la Braïta mentionnée précédemment, d'Amar qui dit, Afilu lo tava limo el abetzir, même si le propriétaire a uniquement trempé un peu de nourriture dans de la saumure avec l'éleveur, velo achalimo el agroget achat, ou bien s'il n'a simplement mangé avec lui qu'une seule date, en d'autres termes, même s'il a simplement partagé un peu de nourriture avec l'éleveur ou la personne qui s'occupe de l'investissement, Zeus Haro, ce sera considéré comme un salaire suffisant pour permettre cet accord. Pour le dernier cas mentionné par la Braïta de la poule qui est donnée à élever, nous dirons la même chose, comme l'explique le Chassé David. Donc, si le propriétaire accorde à l'éleveur le droit de récupérer les œufs, même le premier auteur de la Braïta sera d'accord que ce sera considéré comme un salaire suffisant pour permettre cet accord. Mais dans l'autre Braïta, il s'agit d'un cas où ils avaient convenu que les œufs feraient partie du bénéfice qui serait partagé ensuite, et le propriétaire avait uniquement accordé le droit à l'éleveur de récupérer les œufs abîmés qui ne peuvent pas produire de poussins. Ce cas d'ailleurs sera mentionné plus loin dans la Gemara. C'est pour cela que selon le premier auteur de la Braïta, cet accord est interdit, parce que l'éleveur n'a pas reçu un salaire suffisant, alors que selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, ce salaire sera suffisant pour permettre cet accord. Tanu Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta, Maskeret isha lechaverta tarnegolet bishnei frochim. Une femme aura le droit de louer les services de sa poule à son ami à raison de 2 poussins par couvée. Parce que dans le cadre de cet accord, cette femme n'a aucune responsabilité vis-à-vis du capital. Plutôt, elle reçoit uniquement un salaire pour les services de sa poule. Donc, même si son travail vaut plus que cela, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas à considérer cela comme un prêt avec un intérêt. Par contre, isha shamra lechaverta. Si une femme dit à son ami, Tarnegolet Sheli, la poule m'appartient ou Betim Shelichi, et les œufs t'appartiennent, je propose donc qu'on s'associe et que ma poule couvre tes œufs, Vani Veat Nachlok Befochim, et nous deux partagerons les poussins. Dans ce cas, nous considérons cela comme un investissement, puisqu'il partage les bénéfices. Par conséquent, la propriétaire de la poule sera responsable vis-à-vis de la moitié du capital, donc de la moitié des œufs. Alors, Rabbi Yehuda Matir, Rabbi Yehuda permet quand même cet accord, nous verrons pourquoi, Rabbi Shimon Oser, alors que Rabbi Shimon interdit cet accord, puisque finalement la propriétaire de la poule travaille pour la part de la propriétaire des œufs sans être rémunérée, et cela en échange du prêt qu'elle a reçu. Il s'agit donc d'un prêt avec intérêt qui est interdit. Alors la Gemara demande, Rabbi Yehuda l'obaez haramalo mezono, et selon l'opinion de Rabbi Yehuda, le propriétaire ne doit pas donner à l'éleveur le salaire de son travail et de payer sa part dans les frais de nourriture pour permettre cet accord? L'agma répond, Ika Betsim Muzarot. En général, dans toute couvée, il y a des œufs abîmés qui ne produisent pas de poussins. Et ces œufs sont permis, quand l'agmara le dit dans Khulin Dav Samer Dalet Amud Bet, même s'ils ont été couvés plusieurs jours. Donc ces œufs que le propriétaire laisse à l'éleveur sont considérés comme un salaire suffisant selon l'opinion de Rabbi Yehuda pour permettre cet accord. Parce que comme nous l'avons dit précédemment, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, même si le propriétaire partage uniquement un peu de nourriture avec l'éleveur, cela est suffisant pour permettre cet accord. Alors que selon l'opinion de Rabbi Shimon, le propriétaire doit payer le plein salaire à l'éleveur. C'est pour cela donc que cet accord sera interdit si l'éleveur n'est pas payé pour sa peine. Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta. Makom shenahagu leha'alot sechar katef lema'ot lebehema. Dans l'endroit où l'habitude était que l'investisseur payait un salaire spécial à l'éleveur en argent liquide lorsqu'il devait porter sur ses épaules les jeunes animaux qu'il élevait, ma'alim, l'investisseur devra payer ce salaire à l'éleveur. Voir le Maharam. Ve'en meshanin mimina gamdina. Il est interdit de changer des habitudes de l'endroit. Parce que si l'éleveur renonçait à une partie de son salaire qu'il devait recevoir selon les habitudes de l'endroit, cela pourrait être considéré comme un intérêt. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shamin Egel Imimo. Il est permis d'évaluer la valeur d'un veau avec sa mère, pour les Siach Imimo, ou bien d'un poulain avec sa mère, pour les donner ensemble à un éleveur pour les élever et pour partager ensuite les bénéfices ou les pertes, sans ajouter de salaire supplémentaire pour les petits. Et cela, même dans un endroit où l'habitude était que le propriétaire donnait un salaire spécial en argent liquide à l'éleveur lorsqu'il devait porter les petits sur ses épaules. Et cela parce qu'en général, le petit suit sa mère, il n'a donc pas besoin de le porter. Alors la Gemara demande de Rabban Shimon ben Gamliel. Et selon l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, même s'il est vrai qu'il n'ait pas besoin de payer un salaire spécial pour porter les petits lorsque l'éleveur les reçoit en même temps que leur mère, mais quand même, la question se pose, n'est-il pas nécessaire de payer un salaire pour le travail supplémentaire de s'occuper des petits et pour les frais de les nourrir? En fait, comme le précise le Beit Aharon, pour la mère, il n'est pas besoin de payer un salaire, parce que comme nous le verrons dans la Mishnah suivante, Daf Samertet Amud Bet, la vache et la jument, qui sont des animaux de trait, produisent suffisamment pour couvrir les frais de nourriture et pour pouvoir un salaire à l'éleveur. D'autre part, quand nous parlons d'un éleveur qui reçoit les petits avec leur mère, il s'agit de petits qui têtent encore leur mère. Finalement donc, leur présence n'occasionne pas de frais supplémentaires de nourriture. Cependant, la question se pose que l'éleveur devrait quand même recevoir un salaire supplémentaire pour le travail supplémentaire de s'occuper des petits. L'agma répond, Ika glalim, même les petits fournissent des excréments qui servent d'engrais. Ainsi donc, selon Rabban Shimon Gamliel, le fait que l'éleveur a reçu le droit de récupérer les excréments pour s'en servir comme engrais est considéré comme un salaire suffisant pour permettre cet accord. Ve'idar est le premier auteur de la Braïta qui est en désaccord avec Rabban Shimon ben Gamliel, c'est parce que Glalim Afkure Mafkir Lehu. En général, de toute façon, le propriétaire se désapproprie des excréments fournis par ses animaux, donc renonce à les récupérer lorsqu'il ne se trouve pas chez lui. Par conséquent, nous ne pourrons pas considérer que l'éleveur a reçu un salaire du propriétaire lorsqu'il récupère ses excréments. Cet accord sera donc interdit si le propriétaire n'accorde pas de salaire supplémentaire pour les petits. Amar Rav Nachman, halakha ke Rabbi Yehuda. L'halakha est comme Rabbi Yehuda, selon lequel même le fait de partager un peu de nourriture avec la personne qui s'occupe de l'investissement est suffisant pour permettre un investissement. Halakha ke Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. Et l'halakha est comme Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda, selon lequel le fait d'accorder à l'éleveur le droit de récupérer le petit lait et la laine arrachée sont suffisants pour permettre un accord d'élevage de chèvres et de brebis. Et l'halakha est Rabban Shimon ben Gamliel, et l'halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, selon lequel le fait d'accorder à l'éleveur le droit de récupérer les excréments est suffisant pour permettre de donner en élevage des petits avec leur mère. Bene Ravilish nafak alayu haushtara. Il a été présenté aux enfants de Ravilish un contrat d'investissement qui avait été fait par leur père, donc Ravilish, avant sa mort, pour qu'il le rembourse. Dehava aktiv be, dans lequel il était inscrit palga beagar, palga befsed, que Ravilish recevrait la moitié des bénéfices et supporterait la moitié des pertes. Et dans ce contrat, il n'était pas mentionné que Ravilish devait recevoir un salaire pour s'occuper de cet investissement. Par conséquent donc, le fait de donner la moitié des bénéfices à l'investisseur devrait être considéré comme un intérêt. Amar Rava, Rav Elish Gavra Rabahu. Rav Elish était un grand homme, c'était un tzadik. Beisura le inche lo avasafe. Il est évident qu'il n'a pas fait cet accord d'une manière à donner quelque chose d'interdit, donc un intérêt, à l'investisseur. Par conséquent, nous serons obligés d'expliquer ce contrat de la manière suivante. Malafchar, que Rav Elish aurait le choix entre deux options qu'il choisirait à un moment convenu oralement. Ipalga be'agar, soit il donnerait la moitié des bénéfices à l'investisseur, dretilte be'efsed, donc dans ce cas, l'investisseur devrait supporter les deux tiers des pertes. Donc dans ce cas, Rav Elish ne supporterait que le tiers de la perte. Ainsi, ce n'est que le tiers du capital qui serait considéré comme étant un prêt. Les deux tiers restants seraient considérés comme un dépôt chez Rav Elish. Par conséquent, lorsque Rav Elish recevait la moitié des bénéfices, alors qu'il ne devait en recevoir que le tiers, cette différence, donc un sixième des bénéfices, serait considérée comme un salaire pour le fait de s'occuper de la part de l'investisseur. Il n'y a donc pas d'intérêt. Nous passons à Daf Samech Tet Amud Alef.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.